Chapitre 11 La révolte des vaincus. Martin Dumas n'arrêta pas sa promenade. Il ne cessa pas de fumer sa cigarette. Et tout en marchant, il venait, la chambre étant étroite, toucher presque les deux prisonniers qui, debout ou appuyés dans un angle de la pièce contre le mur, le regardaient avec des yeux luisants de haine, de fureur. Avec l'absence des liens aux mains, un peu d'espoir de vengeance était entré dans leur âme irréconciliable, indomptable. Une fois, deux fois, le roi des détectives, en passant près d'eux, les toucha dans sa promenade. La troisième fois, comme après avoir dépassé, il leur tournait le dos pour changer de direction et revenir sur ses pas, comme ils se trouvaient près du mur, les deux hommes, sans rien dire, sans pousser un cri, brusquement, avec un ensemble merveilleux, bondirent sur Martin Dumas. Pris ainsi entre deux et le mur, Martin Dumas n'avait pas la place de bouger, de faire la moindre résistance. Surpris d'ailleurs, il n'en avait pas eu le temps. Il devait donc tomber sous les coups de ces deux bandits féroces, hardis et d'une vigueur peu commune. Les bandits étendirent les mains pour serrer le roi des détectives au cou. Ça ne serait pas long, une bonne pression lui écraserait la glotte. Un coup en même temps sur la nuque, poussant la tête en avant, et Martin Dumas périrait presque aussi promptement, aussi sûrement, que s'il avait subi la pendaison ou le supplice du garrot en Espagne. Mais les bandits avaient compté sans leur homme. Martin Dumas savait lire dans les yeux. Il déchiffrait la pensée que cachait le front le plus épais. Cette attaque des misérables, il l'avait prévue. Avec son sens, son instinct spécial, il l'avait pressentie. Et quoique tournant le dos au bandit, il avait pour ainsi dire suivi, comme avec ses yeux, tous les mouvements des deux misérables. Quand ils bondirent sur lui, Martin Dumas n'eut qu'à se baisser promptement, et les deux bandits ne saisirent que le vide. Leurs mains, qui s'attendaient à s'emparer du cou de la nuque de Martin Dumas, allèrent donner contre le mur. Martin Dumas alors se releva promptement, comme mu par un ressort. Mais en se relevant, sa tête rencontra le bas de la figure de l'un des bandits. Oh, le poing de Martin Dumas était solide, mais son crâne plus dur encore. Et jamais en boxe anglaise, un coup pareil ne fut donné par le poing du champion du monde. Le bandit, atteint par le crâne de Martin Dumas sous le menton, eut la mâchoire défoncée et toutes les dents déchaussées. Sans connaissance, la bouche pleine de sang, il tomba aussitôt à terre. Martin Dumas n'attendit pas plus longtemps. Le second bandit, s'appuyant au mur, n'avait pas encore retrouvé son équilibre, que le tranchant de la main droite du roi des détectives s'abattait sur sa nuque avec une force terrible. Et ce malheureux tombait aussitôt comme foudroyé, rendant du sang par le nez, par la bouche. C'était un des plus terribles coups de jiu-jitsu que venait lui appliquer Martin Dumas. À ce moment, Prosper rentra. Il s'arrêta sur le pas de la porte, absolument stupéfait. Martin Dumas, très calme, n'avait même pas laissé, au cours de cette scène, tomber de ses lèvres la cigarette qu'il fumait. Voyant les deux hommes à terre, tranquillement, il reprenait sa promenade. « Chef, demanda Prosper, mais qu'est-ce qu'il y a ?»« Ben, il y a, répondit Martin Dumas. Il y a que je viens de donner une leçon. Oh, une rude, à ce qu'il me semble. Oui, mais j'en ai reçu une nouvelle. Vous, une leçon? Oh, parfaitement. Il ne faut jamais traiter les tigres comme les chiens. Voilà ce que je viens d'apprendre. Oh, ces hommes ont essayé, oui, de m'étrangler tout bonnement. Les misérables. J'avais été bon pour eux, je montrais de la mansuétude, de l'humanité. Et voilà quelle était ma récompense. Oui, ces misérables prenaient pour de la faiblesse votre bonté. Oh, être humain avec les barbares, les sauvages, c'est se préparer des remords. Voilà la conclusion de cette aventure. En deux mots, Martin Dumas raconta la scène à Prosper. Oh, conclut-il, c'est très bien. Ces chelevents sont vraiment des gaillards redoutables. Ils sont admirables, mais j'aime mieux les admirer comme cela, à terre, que d'être moi le sujet de leurs coups de main remarquables. Puis il dit, nous avons besoin du costume de ces individus. Nous allons les déshabiller. Nous leur passerons les vêtements que vous avez apportés. Cela se fera sans trop de mal, car je crois qu'ils sont sans connaissance pour quelque temps encore. En effet, il fut sinon commode, du moins assez facile, au roi des détectives et à son second, d'enlever aux prisonniers les habits qu'ils portaient et de leur en passer d'autres. Alors, Mathurin Dumas dit à Prosper, maintenant, il ne reste plus qu'à faire disparaître ces gaillards, très encombrants, et de les mettre en lieu sûr. C'est pas si commode que cela. Non, chef, d'autant plus que nous sommes maintenant très surveillés. Oh, je m'en doute. Martin Dumas demanda, nos hommes sont là? Oh, je le sais, chef. Voulez-vous aller voir, mon ami? Vous me renseignerez aussitôt. Prosper sortit. Martin Dumas se dirigea vers la croisée et eut l'air de s'intéresser fort au paysage. En réalité, il étudiait de ce côté les alentours de la villa. Et peu après, Prosper revenait. Chef, dit-il, les hommes sont là. Bon, ça va bien, attendez-moi ici. Peu après, Martin Dumas descendait. C'est à ce moment, me dit-il plus tard, que l'envoyé du commissaire central de Melun arriva à la villa. On venait précisément de le faire entrer au salon. Mon cher ami, lui dit notre hôte, j'allais vous chercher. Pourquoi cela? Ah ben, il vient d'arriver quelqu'un de la gendarmerie de Melun qui est envoyé par notre ami Courville, à qui il est arrivé une extraordinaire aventure. Allons donc raconter cela. Martin Dumas entendit le récit de l'envoyé, ayant grand mal à tenir son sérieux. L'envoyé lui narra les faits tels que le brigadier et le subordonné Marollet les avaient exposés au commissaire central. Si Martin Dumas gardait à peu près son sérieux, par contre, nos hôtes, en écoutant ce récit, ne purent s'empêcher de rire aux éclats. Et notre hôtesse ne se fit aucun scrupule, on l'a vu, quand elle vint me voir dans l'infirmerie de la gendarmerie, de m'avouer qu'elle avait ri aux éclats et de me montrer qu'en ce moment encore, elle ne pouvait s'empêcher de rire de ma mésaventure. Notre hôtesse était charmante et son rire délicieux. Ma foi, ramasser une pelle et entrer triomphalement sur le destrier de Marolles, cela valait bien de jolis rires. Mes amis, dit Martin Dumas, ayant écouté le récit, il faut que vous vous rendiez auprès de notre infortuné Courville. Il fit un mot pour le commissaire central dont il chargea l'envoyé qui repartit aussitôt. Et il expédia ses hôtes à Melun. Mais voilà, dit-il à Prosper, voilà qui nous arrange bien. Cela me tire un peu de soucis pour mes deux chenapans. Nous allons pouvoir les embarquer tranquillement. Quand nos hôtes eurent quitté la villa dans la petite voiture qui les conduisit à la gare de Bois-le-Roi, Martin Dumas fit monter jusqu'à la chambre deux de ses hommes qu'il avait convoqués. Et il leur donna des instructions précises. Puis, avec leur aide et le concours de Prosper, il mit les deux prisonniers, toujours évanouis, chacun dans un sac. On les transporta alors dans le garage. Avant cela, avec les effets des misérables, on avait revêtu les deux mannequins qui déjà avaient joué dans cette aventure le rôle dont on se souvient. « C'est assez amusant, » dit Martin Dumas. « Cela ne manque pas de saveur de transformer en bandit ce qui hier était Martin Dumas. » Puis ces mannequins ainsi habillés furent également descendus dans le garage. Quand le domestique, qui était un peu tout à la fois la villa, chauffeur, jardinier, concierge, revint avec la voiture, Martin Dumas lui dit de ne pas la rentrer, qu'il comptait faire une promenade en quelques instants. Le chauffeur abandonna donc son auto aux mains du roi des détectives et s'en alla piocher quelque part dans le jardin. C'est tout ce que voulait Martin Dumas. Quand il se fut éloigné, Prosper et Martin Dumas mirent dans le fond de la voiture les deux mannequins durement ficelés et bâillonnés, ressemblant vraiment aux deux prisonniers. Alors, dans la cour, parurent deux hommes ressemblant à s'y méprendre à Martin Dumas et à Prosper. « Bien, bien !» fit le roi des détectives en les examinant. « Moi-même, si je ne savais que je suis là, je pourrais me croire en présence de Martin Dumas, peintre. »« Et moi, » fit Prosper, « me tromperais aussi en voyant ce nouveau Prosper. » Peu après, le faux Prosper et le faux Martin Dumas montaient dans la petite voiture. Et rapidement, ils se dirigeaient vers Fontainebleau, emportant leurs deux pseudo-prisonniers. Dans ses recommandations, Martin Dumas leur avait formellement prescrit de passer devant la villa du commandant. Il devait en outre s'arranger pour bien laisser voir aux espions ce qu'ils conduisaient dans leur auto. Sans toutefois permettre à qui que ce soit de s'approcher trop près de la petite voiture et de reconnaître la supercherie. Martin Dumas se doutait bien que la voiture serait signalée, qu'on saurait qu'elle contenait deux corps mal dissimulés sous une couverture. En effet, un cycliste s'approcha en cours de route de la voiture et, comme il arrive souvent, appuya la main au garde-boue pour se faire traîner. L'un des hommes qui jouait le personnage de Martin Dumas et qui conduisait aperçut le manège. Il donna de temps au cycliste, dont il ne doutait pas de la qualité, de s'appuyer au garde-boue. Mais, lui ayant permis de bien voir qu'il y avait là dans la voiture deux corps, il fit faire un écart à la petite auto qui bouscula le cycliste. Oh, celui-ci faillit être renversé. Prudemment, il s'écarta de la voiture et il la dépassa tout en envoyant aux deux hommes une grosse injure. « Bon, » dit le pseudo Martin Dumas, « voilà, c'est vu, maintenant il va avertir ses compères. » En effet, quand, selon les ordres de Martin Dumas, les agents passèrent devant la villa du commandant, ils aperçurent au bout de la rue une forte auto arrêtée. Autour de cette auto, cinq ou six hommes, plusieurs cyclistes, parmi lesquels ils reconnurent le cycliste qui les avait rencontrés en chemin. « Ha ha !» fit le pseudo Martin Dumas. « Ils nous attendent là pour faire naître un accident quelconque, nous provoquer, nous attaquer, nous prendre nos prisonniers. » sans donner à penser qu'ils avaient deviné la manœuvre et qu'ils se doutaient du coup, les hommes de Martin Numa avancèrent, mais en ralentissant un peu l'allure. Ils avaient, en passant, vu dans une petite rue qui se déversait sur celle qu'ils parcouraient, quelque chose qui semblait avoir été envoyé pour leur porter un précieux secours. Comme ils arrivaient à une dizaine de mètres des bandits qui les attendaient pour l'attaque, derrière eux, à 20 mètres à peine, tout à coup éclatait une fanfare. Et un peloton de cavalerie apparaissait, entrant dans cette rue qui conduisait aux casernes. Dans leur barbe, le pseudo Martin Numa et Prosper se mirent à rire. Et ils passèrent devant le groupe des cyclistes et les autres malandrins qui les observaient avec rage et durent les laisser tranquillement s'éloigner. Le guet-apens était manqué. Comment, en effet, essayer d'attaquer ces deux hommes et cette voiture quand toute cette cavalerie arrivait? La petite voiture put donc poursuivre sa route sans encombre. Des cyclistes, sans en avoir l'air, l'escortaient cependant. Ils la virent gagner la gendarmerie. Il fallait en effet que l'on sût dans ce camp où Martin Numa conduisait les prisonniers. Les espions du commandant escortèrent donc la voiture. Le pseudo Martin Numa parlementa avec le gendarme de planton. Et la voiture entra dans la cour. Les bandits, navrés, s'en retournèrent. Ils emportaient cette conviction que leurs camarades, malheureux, avaient été faits prisonniers par le terrible Martin Numa. Et que maintenant, ils étaient détenus à la prison de Fontainebleau. Or, contre cette prison, contre la gendarmerie, il n'y avait raisonnablement rien à tenter. C'est donc avec désolation et fureur qu'ils allèrent faire leur rapport à leur chef. Pendant ce temps, à la villa, une charrette de charbonniers était venue apporter quelques sacs de charbon de bois. Elle en remportait deux en retour qu'on dut glisser adroitement parmi les autres. Dans ces deux sacs se trouvaient les deux bandits. Un peu plus loin, une automobile appartenant à Martin Numa se trouvait arrêtée dans un chemin de la forêt par où devait passer la voiture du charbonnier. On aurait pu voir le chauffeur et les gens qui montaient l'automobile parlementer un instant avec le charbonnier. Puis cette chose inusitée et unique, l'achat de deux sacs de charbon par les automobilistes. Le chargement de ces deux sacs dans l'automobile. Ainsi, quelques instants après, à toute allure, à la plus grande vitesse, roulait sur Paris, tranquillement, l'automobile de Martin Numa, qui emportait vers l'infirmerie du dépôt les deux compagnons du fameux bandit, supposant un rival de Martin Numa, nos deux assassins.